Catherine Garrigue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion action chez Allianz GI France. On va parler avec vous de l'Europe, des marchés européens, dans la partie action. En ce moment, on se pose beaucoup de questions. On trouve peu de gérants, effectivement, qui ont envie d'investir sur ces marchés actions. Pourtant, on voit certaines valorisations qui peuvent quand même permettre de penser qu'il y a des choses à faire. Comment vous abordez-vous ce marché avec la crise espagnole, la crise grecque, la crise italienne? Comment on aborde ces marchés actions?
Je pense que, il faut allonger son horizon d'investissement. Parce que si vous me demandez qu'est-ce qui va se passer ce soir au dîner entre Merkel et Hollande, on n'en sait rien. Il y a des nouvelles tous les jours sur le plan politique, économique, sur les crises. Donc on n'a pas la réponse. Et ce qui est important, c'est de se dire que la vie continue. Il y a des entreprises qui ont des produits, qui ont des clients, qui ont des marchés. Et il y aurait pléthore d'exemples à vous donner de sociétés qui sont à leur plus haut historique. Donc ce n'est pas la crise pour tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà. Donc encore une fois, je crois que le vrai message, c'est d'allonger son horizon de temps, de bien choisir ses thèmes. Il y a toujours des marchés porteurs et de trouver les acteurs qui vont permettre de faire de la performance sur les marchés.
Alors on pourrait dire que tout de même les questions des risques pays sont un peu ajoutées. C'est vrai qu'avant en Europe, quand on investissait en Europe, on disait voilà, on va chercher le constructeur automobile le plus porteur, telle valeur de la distribution dans tel pays. On s'inquiétait pas de savoir est-ce que ce pays en question était vrai, enfin, avait vraiment un problème vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, on est obligé quand même de peut-être de revoir un petit peu ces questions-là.
Alors, il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est effectivement l'appartenance géographique se transpose en fait sur le coût de financement d'une entreprise. Une entreprise espagnole aujourd'hui, elle va payer le même prix, voire plus cher, que l'État espagnol en fait. Donc, une entreprise espagnole qui est très endettée et qui n'aurait pas la chance d'avoir des marchés à l'exportation puissants, évidemment, va être en très très mauvaise posture. En revanche, une entreprise espagnole qui n'est pas du tout endettée, qui est internationale, je pense à Inditex, la maison mère de Zara que tout le monde connaît, voilà un exemple d'une société espagnole qui est à son plus haut historique, parce qu'à la limite, ce n'est pas une valeur historique. Ce n'est pas une valeur espagnole, pardon. Voilà. Donc je pense que le facteur pays, vous avez raison, est au centre des problématiques de construction de portefeuille. Il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que cette entreprise sera pénalisée par son appartenance à tel ou tel pays. Mais au-delà de ça, ce sont vraiment les fondamentaux finalement qui vont prendre le dessus. En Italie, par exemple, alors autant les banques italiennes sont au tapis, les utilities italiennes sont au tapis. Dans les secteurs pétroliers, par exemple, voilà, une société comme Saipem, elle n'est pas à son plus haut, mais elle a une dynamique telle qui est due à son secteur qu'elle arrive en fait à tirer son épingle du jeu.
Vous diriez dans cette période-là que justement c'est encore plus important de. Alors on parle souvent de stock picking, hein, de gestion de stock picking, d'aller chercher valeur par valeur. Bon, on a les secteurs bien sûr, et puis ensuite d'aller chercher les valeurs qui dans ces secteurs-là finalement vont être capables, on va dire, de passer la vague, qui est pour l'instant très défavorable aux actions.
Et tout à fait, hein, vous avez raison. Je pense que la gestion active reprend vraiment tout son sens. Il faut vraiment ne plus avoir de gestion benchmarkée, comme on dit. Voilà, il faut avoir une gestion de conviction, investir dans des entreprises, avoir confiance dans leur avenir, avoir probablement des portefeuilles très concentrés aujourd'hui. Hein, très concentrés, je veux dire 40 ou 50 valeurs, pas plus. On a rarement plus de 50 convictions. Et voilà, alors après, il y a aussi, par exemple, le secteur bancaire. Bon, aujourd'hui, le secteur bancaire, qu'est-ce qu'on peut en penser? Je crois que la prime de risque qu'on a mise sur ce secteur est historiquement élevée. Pourquoi? Parce que son sort est intimement lié à l'avenir de la dette souveraine. Hein. Pourquoi? Parce que ces banques portent beaucoup de dettes souveraines. Donc, où ça passe, où ça casse. Mais si ça passe, c'est notre théorie, c'est notre stratégie. Si ça passe, ces banques sont totalement sous-évaluées. Hein, à 30 ou 40% de leurs fonds propres, si elles n'ont pas besoin de faire d'autres augmentations de capital, pour nous, il est clair qu'elles sont sous-évaluées. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, c'est un peu à l'investisseur de prendre parti. Et encore une fois, si ça casse, ça peut aller encore plus bas. Malheureusement, si ça passe, ça peut énormément monter. C'est très, très binaire dans ce secteur.
Oui, parce que justement, c'est un peu l'idée qu'ont pas mal d'investisseurs. Quand on regarde un peu le marché, ils ne sont pas très présents aujourd'hui sur les marchés. Et visiblement, dans cette optique-là, en disant, on ne sait pas encore dans 3 semaines, dans 1 mois, après l'été, ce qui va se passer si ça tombe plus bas. Donc, investir maintenant. Donc, il y a cette attente, finalement, d'être un peu rassuré par aujourd'hui un calendrier qui est finalement politique.
Oui, mais encore une fois, ce que je disais au début, c'est que on sait pas. On sent que l'urgence arrive. On sent qu'on va vers probablement plus d'intégration politique, plus d'intégration fiscale. Il faut le souhaiter. Voilà, on avait commencé par faire l'abonné sans faire l'intégration économique. On se rend compte qu'il faut aller beaucoup plus loin. Donc c'est notre souhait à tous. Mais voilà. Alors, je pense qu'il y a quand même un thème aussi sur le marché, parce que les investisseurs ont délaissé les dettes souveraines pour faire du crédit. Donc là, il y a un peu un paradoxe quand même, parce que quand vous achetez du crédit d'une entreprise, pourquoi vous achetez sa dette et vous n'achetez pas son action ? Il y a quand même un paradoxe. Je pense que la raison essentielle tient à la volatilité inhérente du marché action, qu'on ne retrouve pas du tout sur le marché du crédit. Mais aujourd'hui, je dirais que une action d'une entreprise vaut beaucoup moins cher et beaucoup plus intéressante que sa dette. Et de surcroît, elle paye un dividende, cette action paye un dividende qui sera en croissance. Alors que quand vous achetez une dette, vous achetez un coupon fixe et vous aurez tous les ans le même coupon. Donc si vous avez une perspective de long terme, je reviens toujours à mon horizon de temps qu'il faut repousser, je pense qu'il est beaucoup plus profitable d'acheter aujourd'hui une entreprise qui verse un dividende sur lequel vous avez confiance et qui sera en croissance, alors que sur sa dette, finalement, vous n'aurez pas la même perspective. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une illustration de la prime de risque qui s'est vraiment mise sur le marché actions.
Il y a des exagérations. En même temps, on se dit, toutes ces mauvaises nouvelles sur le plan macroéconomique, peut-être qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui présentent encore de bons résultats. Et puis, dans les trimestres qui viennent, la croissance sera un peu plus faible. Donc, il y a aussi peut-être ça qui pèse, peut-être des révisions à la baisse, des perspectives, on va dire, 2012.
Alors, on le voit, là, on est en pleine période, juste avant la sortie des résultats du deuxième trimestre. Donc, c'est la période des avertissements sur les résultats, effectivement. On en a eu. Alors, on n'est pas surpris quand c'est des secteurs cycliques qui font des profit warnings. Voilà, on a eu Danone la semaine dernière qui a un peu traumatisé, Procter & Gamble aux États-Unis.
Alors Danone, on pourrait ajouter valeur défensive
très internationale, mais avec une présence quand même non négligeable en Espagne. Ils ont bien expliqué que c'est vraiment une chute de la consommation en Espagne. L'Espagne est en récession, il y a 25% de chômeurs. Donc il y a du trading down, comme on dit, c'est-à-dire que le consommateur se reporte sur des catégories moins chères. Et donc effectivement, l'Espagne en plus est un marché très rentable pour Danone, plus proportionnellement que les autres. Voilà, donc c'est pas non plus dramatique, mais il est effectivement tout à fait possible qu'on en ait d'autres. Hier en Allemagne, on a eu un gros profit warning de Infineon, bon, dans les semi-conducteurs. Marché final, il y en a deux, essentiellement c'est l'industrie et l'automobile. Voilà, c'est tout à fait logique. Mais bon, je pense qu'il faut s'y attendre. Encore une fois, Infineon est une société qui n'est pas du tout endettée, qui est mondiale, qui est leader dans son secteur. Et je dirais que voilà, quelqu'un qui n'en a pas aujourd'hui devrait vraiment se poser la question de savoir s'il ne faut pas en faire aujourd'hui.
Donc on pourrait dire des opportunités, en tout cas,
voilà,
sur ce marché.
Voilà, ce sont des opportunités quand on a confiance dans l'avenir.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Catherine Garry. Je rappelle, vous êtes donc responsable de la gestion action chez Allianz GI France.
Merci.